Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos analyses sur cette nouvelle attaque dans le centre du Mali, après l'attaque d'un village Peul en mars dernier. L'attaque de dimanche a visé un village Dogon. Alors plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort sans qu'on sache le bilan exact, qui est encore confus. Selon le maire de Sanga, où s'est déroulée l'attaque, les auteurs seraient des djihadistes. Alors quelle doit être selon vous la réaction du gouvernement malien et comment surtout empêcher la stigmatisation d'une communauté par une autre? Pour nous participer, nous faire part de vos commentaires, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre correspondant à Bamako, Idrissa Diakité. Tout d'abord, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse à Montreuil. Chebela vient de vaincre. Chemeya vient de vaincre. Kasser Chemeya vient de vaincre sur une distance inhabituelle pour elle. Pour l'instant, comme l'appel n'est toujours pas passé, elle ne peut pas courir sur les 800, 600 et 400 et autres. Et donc, elle a décidé en grande athlète de s'aligner sur les 2000 mètres. Et elle a vaincu. Elle a vaincu. Bravo, Chemeya. Nous te soutenons.
Bonjour, Stéphanie. Bonjour à toi de toute Africa Radio. La Côte d'Ivoire est un peu en chaleur, là, on dira. Ça chauffe là-bas entre tous ces leaders politiques juste pour 2020, puisque chacun a des ambitions d'être président ou de rubriquer le mandat. Voilà. Mais les propos d'Henri qu'on a baigné, moi je pense que il n'y a pas eu de déclaration comme ça juste à la foulée. Moi je pense que tout ce qu'il a dit, il doit avoir raison de quelque part. Il ne faut pas oublier que non, ce monsieur était chef de l'État dans ce pays, donc il connaît le système. Quand il parle comme ça, c'est pas pour se faire plaisir. Moi je ne l'encourage pas pour inciter les gens à la xénophobie ou autre chose, en fait une discrimination quelconque. Mais il faut reconnaître que tous, ils se connaissent. Ce sont des fruits du vieux au fouet. Et ils étaient tous dans la même maison, donc ils se connaissent, et les Ouattara et les Béliers. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on a Bélier dit ça, c'est qu'il sait qu'il y en a quelque chose qui se prépare ou qui est déjà là. Donc je peux dire aux Ivoiriens de ne pas le diaboliser pour rien. Il faut chercher maintenant à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, je suis d'accord avec lui parce que Ouattara aussi, il est en train de prendre la Côte d'Ivoire pour sa propriété privée. C'est pas aussi normal. Il est en train de faire une politique qui n'est pas bien. William, au revoir.
Alors, bonjour Africa Radio. Je voulais informer la communauté de la diaspora, la communauté francophone, qu'il y aura une marche organisée devant l'OIF le jeudi 13 juin à partir de 13h. Ça sera une marche pour dénoncer ce qui se passe au niveau de l'OIF concernant la candidature de Soro Guillaume et les tripatouillages constatés pour pouvoir faire bloc derrière la démocratie et le respect des tests. Merci Africa Radio, Dieu vous bénisse.
Bonjour, mais moi je ne comprends pas franchement ce qui se passe au Mali. La situation est tellement pourrie que tout le monde est confus. Mais moi, j'ai l'impression que le gouvernement malien cache des choses aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si ce qui se passe au Mali, je me demande bien si ce n'est pas un conflit ethnique, un conflit de clans. Bon, à chaque fois qu'il y a des attaques, on nous parle de djihadistes. On est vraiment confus. Il faudrait que le gouvernement malien nous dise la vérité. S'il y a un conflit ethnique au Mali, il faudrait qu'on nous dise. Parce que là, il y a trop de morts. Il y a trop de morts. des dizaines de morts. Trop, c'est trop. Mais c'est Ibrahim Boubacar Keïta, il faut prendre tes responsabilités, il faut jouer franc jeu, dis la vérité aux Maliens, aux Africains. La crise profonde qui est dans ce coin-là, enclavé du Mali, là, il faudrait qu'on nous dise réellement ce qui se passe. Les Africains ont besoin de le savoir. Idriss, bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. D'ailleurs, une petite précision technique. Il ne faut pas utiliser votre kit main libre pour laisser des messages qui après ne sont pas diffusables. On entend voilà, surtout le bruit autour de vous et on n'entend pas vos messages. C'était une précision. Que se passe-t-il au Mali justement? C'est donc la question du jour dans le journal des auditeurs. Après l'attaque d'un village Peul en mars dernier, l'attaque de dimanche a visé un village d'Ogon. Plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort. Selon le maire de Sangha, les auteurs seraient des djihadistes. Alors quelle doit être selon vous la réaction du gouvernement malien et surtout comment empêcher la stigmatisation d'une communauté par une autre? On fait le point tout de suite avec notre correspondant à Bamako, Idrissa Diakité. Idrissa, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Idrissa, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord un point sur le bilan de cette attaque qui s'est déroulée dimanche soir. Selon le maire de Sangha, 108 personnes sont revenues de brousse sur les 300 habitants que compte le village. Le gouverneur de Mopti a d'abord évoqué 35 morts, ensuite le maire plutôt 95. Depuis ce matin, le bilan a été revu à la baisse apparemment à 35 morts. Deux jours après le drame, a-t-on un bilan précis, mon cher Idrissa ?
Difficile, très difficile de dire Stéphanie ce qui se passe en termes de bilan, mais moi je pense réellement même que le problème de bilan n'est pas une situation qui doit permettre bien sûr à différents acteurs de se tirer sur le terrain. Une vie humaine est précieuse et quelle que soit la situation, le mode opératoire, c'est qu'un mois fait toujours mal. Que ce soit 35, 70, 90, on meurt tous les jours sur le territoire du Mali. Qu'importe, personne ne peut dire en réalité combien de personnes perdent la vie au quotidien au Mali. Le gouvernement parle de 35, on veut criminaliser un tout petit peu le premier bilan et ses auditeurs, et ses auteurs, mais en réalité, c'est une question de vie humaine. Quand on voit des corps humains, des enfants surtout pris par des balles dans le dos, quand on voit bien sûr des femmes avec leurs enfants accrochés au flanc, ça fait mal. Donc, on parle de plus de 80, on parle de près de 100. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de bilan précis parce qu'il y a eu des fosses communes. Il y a eu bien sûr une attaque qui a duré de 17 heures au petit matin. Et il a fallu attendre 4 ou 5 heures pour revoir des vraies autorités sur le terrain pour constater les dégâts. Et ce qui s'est passé à Ogossagou, ce qui vient de se passer tout de suite au centre du Mali, il faut juste prendre conscience de la négligence humaine, de la négligence autoritaire et de l'absence de l'autorité de l'État. C'est tout.
Merci Idrissa. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs parce qu'ils sont nombreux. On va essayer de prendre un maximum d'auditeurs possible. On commence avec Magassa. Je vais vous demander, messieurs, mesdames, d'être bref, concis. Magassa, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Magassa. À la question quelle doit être la réaction du gouvernement malien, vous dites Ibeka doit partir.
Ibeka doit partir, c'est très simple. On a voté pour lui pour dire qu'il va faire la sécurité au Mali. Il a fait le contraire, insécurité au Mali. Le problème du Mali, c'est Ibeka. Non. C'est insécurité totale. Depuis qu'il est là, ça n'a jamais existé dans notre pays. Insécurité partout. Dans ma région, entre Bamako, Kaï, l'autre jour, j'ai arrêté 15 autocars. Fuyé un par un, combien de millions ils ont pris avec les passagers, plus l'air portable. Il y a des choses au Mali, on ne l'ose même pas là.
Ouais, du racket hein, sur les routes, hein, c'est ça. Hein.
Voilà.
Bon.
Et ça, c'est un racket. Si tu refuses, qu'est-ce qu'il fait? Il te tue. Vous voyez comment on ne peut pas vivre dans notre pays. Mais on ne sait pas si c'est un complot du gouvernement Tu vas dire, venez nous attaquer, on partage l'argent, puisque comme ça, on va dire, il y a la sécurité dans le pays. C'est sûr, il y a quelque chose qui nous cache la vérité. Ça ne va pas du tout.
Beaucoup d'incompréhension, hein, si je comprends bien, Magassa, hein, qui dit finalement, voilà, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. On va écouter Lassana également. Lassana, bonjour.
Bonjour Stéphanie, ça va ?
Bonjour Lassana, bienvenue dans le JDA. Vous dites pareil, hein, vous dites ça fait longtemps que je le dis, c'est Ibeka, la responsabilité qui est à la...
Ouais, c'est ça.
Bon, on peut quand même rappeler que les problèmes du Mali ont commencé avant l'élection d'Ibeka, on se rappelle en 2012 déjà.
Non, dans 2012, c'est moins que...
Il y avait quand même l'occupation du Nord par les djihadistes. Hein.
Stéphanie, quand John Kunda il était là, nous on a le contrôle jusqu'à France et l'Algérie. Jusqu'à France de Libye. Mais dès qu'Ibeka est venu, quand on parle d'Ibeka, je crois qu'on est contre Ibeka. C'est ce système d'Ibeka. C'est ça qu'on ne voulait pas, Stéphanie.
Bon.
Il ne peut pas contrôler ce pays comme ça. Ibeka est en train de balader partout. Il prend de l'avion, il va là en Arabie Saoudite.
On se rappelle, Lassana, hein, que le précédent Premier ministre Oumeru Boubaï Maga avait démissionné, hein, suite à l'attaque d'Ogossagou.
Stéphanie, tout ça, c'est des fantasmes. Moi, je te dis, c'est pas problème du Premier ministre, c'est pas problème des...
Si vous me laissez poser la question, Lassana, vous allez pouvoir me dire plus précisément. J'allais vous demander si Ibeka démissionne, on met qui à la place?
C'est ça qui... Non, il va partir, même quand n'importe quelle personne va venir, comme ça, on va tranquille. On en a marre, c'est Ibeka-là. Dès qu'il est venu au pouvoir... Combien de Malais sont morts? On ne peut même pas peut-être compter.
Une vie est une vie, hein, nous disait notre correspondant au Mali. Merci, Lassana. On va essayer d'avancer. On va écouter M. Diaby, qui est à peu près le même point de vue. Je reviendrai vers vous, Idrissa Diakité, peut-être pour un commentaire. M. Diaby, bonjour. Coupez votre radio. Bonjour.
Magasin, il a tout dit, parce qu'Ibeka, vraiment, les problèmes du Mali aujourd'hui, c'est le plus personne, c'est Ibeka. Nous, vraiment, Ibeka, il réfléchit parce qu'on ne comprend plus rien. John Kunda, il était là, la situation était contrôlée.
Mais il n'est quand même pas tout seul à gouverner, Monsieur Diaby. Il y a quand même un gouvernement. On a Boubou Cissé qui s'est déplacé sur place.
Stéphanie, si vous changez vraiment des chauffeurs pour un même véhicule qui tombe en panne, ça sera la même pareil. De toute façon, on sait.
Donc la question, c'est pas la question du chauffeur, alors, Monsieur Diaby, c'est la question du véhicule.
Non, mais le véhicule, Ibeka, il est en panne.
C'est qui le véhicule? C'est Ibeka ou c'est le Mali?
Mais même si on met quelqu'un d'autre, même chauffeur encore, ça sera la même chose. Ce n'est pas le problème des premiers ministres. Le problème, c'est Ibeka. Les Maliens, on n'en veut pas. On n'en veut pas d'Ibeka. Personne ne donne la main Ibeka pour travailler. Parce que les gens sont là pour simplement les posters. Ils ne sont pas là pour travailler. Ils sont là pour là. L'ONU savent. Ils savent notre problème aujourd'hui. Les Maliens tombent tous les jours. Est-ce que c'est normal? Les Maliens devaient savoir. Ceux qui votaient pour Ibeka, ils savent bien qu'Ibeka n'est pas la situation du Mali. Mais simplement, ils veulent maintenir le conflit au Mali. Ça, c'est pas normal. Les Maliens devaient réfléchir. Ibeka, il devait partir coûte à coûte.
Bon. Merci beaucoup, Monsieur Diaby. On a bien compris. Je vais vous demander une réaction, Idrissa Diakité. Vous entendez, hein, les auditeurs qui accusent, hein, le président Ibeka. C'est, j'allais le dire à Lassana tout à l'heure, finalement, la précédente attaque, hein, d'Ogossagou avait conduit à la démission du Premier ministre. Que peut faire aujourd'hui le gouvernement qui n'a, a priori, toujours pas déclaré 3 jours de deuil, je crois? Idrissa?
Oui, il n'y a pas eu de deuil déclaré, Stéphanie. Il n'y a pas eu, bien sûr, de deuil déclaré. Et au moment où ça peine, ça saigne du côté, bien sûr, du centre du Mali, l'ambiance de fêtard dans la capitale malienne fait comprendre en réalité que le Malien, dans sa majorité, n'a pas jusqu'à présent pris conscience du danger dans lequel il se trouve. Moi, je pense qu'il faut sortir de la situation, de la stigmatisation, de la personnalisation et de se retrouver seulement des problèmes de Ibeka, de Sahela, de ATP, de trucs. C'est qu'on a un système qui est grippé. Et le système grippé a ouvert la porte à toutes sortes de délinquances et bien sûr de violences. Et on a intérêt aujourd'hui à prendre conscience qu'on doit bien sûr refaire cette géographie politique et sécuritaire du Mali pour repartir de bon. Ce n'est ni les Nations Unies, ni la France qui pourront réellement venir asseoir ce système. Il faut que les Maliens comprennent que le temps du changement sonne. Et ce temps qui a sonné depuis 2013, on a refusé de le comprendre. et on continue réellement à aller droit dans le mur. C'est compliqué parce que en fait, on n'a pas une armée forte, on n'a pas une économie forte, et on n'a pas aujourd'hui une population assez forte dans sa tête en termes réellement de citoyenneté et bien sûr de rebondir. Donc, si on ne change pas, on va droit dans un mur.
Justement, Idrissa, après l'attaque d'Ogossagou, Ibeka avait ordonné la dissolution des milices d'autodéfense. Force est de constater qu'elles ne se sont pas dissoutes. Elles ont même refusé ouvertement de se dissoudre. Finalement, Idrissa, on s'interroge sur le réel pouvoir du gouvernement. Et cette question, dans quelle région du Mali l'État malien s'impose, finalement ?
Il y a une difficulté, Stéphanie. La grande difficulté aujourd'hui au Mali, c'est de comment asseoir l'autorité de l'État. Et ça commençait au nord, mais au moment où ça commençait au nord, le même problème existait au sud. Déjà en 2012, 2011, 2010, le même problème existait au nord. Vous vous rappelez des débats qu'on a souvent tenus? Bon, souvent on me prenait pour être quelqu'un qui voyait noir. Mais en fait, je donne de façon schématique ce qui se passe au Mali. Le Mali est, depuis 2010, dans une situation que l'ex-URSS a vécu avant son éclatement. Et chaque région aujourd'hui au Mali continue de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Tunéfaux, du côté bien sûr du sud, se disent, mais est-ce que ça ne va pas nous arriver? Ils ont frappé du côté de Kouri, vers la frontière burkinabé. Du côté, bien sûr, du Mandé, on n'est pas dans la sécurité parce que c'est des tonnes, des mines d'or qui sont là-bas et bien sûr, des populations de toutes sortes qui s'installent. On est dans un problème sérieux parce que, que ce soit Ibeka ou que ce soit un autre homme politique, il vaut juste la peine pour nous tous de se poser la question comment rebondir et puis, bien sûr, se soulever les coudes. Au moment où le centre s'enflamme, on a peur pour le sud, parce qu'on frappe à Koulikoro, qui est à la porte d'entrée de Bamako. Il y a eu d'autres fronts, d'autres menaces. On ne sait pas.
La crainte d'une balkanisation du Mali, c'est ce que vous venez de dire, Idrissa Diakité. Merci beaucoup, Idrissa. On va reprendre écouter des auditeurs. Koné, bonjour Koné.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur Koné. Vous vous dites qu'il faut éviter l'amalgame. C'est vrai qu'on entend ici et là des communautés stigmatisées les unes contre les autres.
Oui, non seulement ça, la solution qu'on vous demandez, la solution c'est quoi? À un moment donné, il faut que Ibeka qui sorte, qui parle clairement, il faut qu'il sache que le peuple est derrière lui. Trop c'est trop, on a eu trop de morts. Moi, la solution, c'est quoi? C'est, il faut revoir vos fameuses, résolutions de l'ONU. Là, on a en plein moment de récupérer de la négociation pour prolonger le mandat de l'ONU. Et par hasard, j'ai entendu
la ministre
presse, le vendredi dernier, madame, il parlait de le conflit entre de Santiago au centre du Mali. Il déclare ça le vendredi et dimanche, il y a ces morts-là. D'accord ? Maintenant, la résolution de la fameuse résolution, je ne sais pas si c'est un bon moment, c'était la résolution de 1985 qui prévoyait le déploiement des mouvements et une force étrangère au Mali. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. MINUSMA n'a pas été déployé, mais on a un MINUSMA. Et là, la France n'a pas l'exclusivité de rester là-bas. Non, comme ça ne va pas, pendant 6 ou 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire?
D'ailleurs, la MINUSMA est composée de tout sauf des soldats, très peu de soldats français, c'est des soldats africains majoritairement qui composent la MINUSMA.
Et maintenant, la résolution de 2085 prévoit quoi? Le déploiement d'une force étrangère de la MINUSMA. Plus une force qui peut épauler l'armée malienne, qui est aujourd'hui la France. Comme ça ne va pas,
on va en reparler ça avec M. Demba dans quelques instants. Finalement, Koné, si j'ai bien compris, vous dites si ça ne marche pas, voilà, faisons appel à d'autres personnes, en tout cas, peut-être de ne pas compter sur la France. Merci, Koné. On va écouter Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour Madame Ackman.
Bonjour Koulibaly.
Bonjour Idrissa Diakité.
Bien sûr. Des fois, vu de l'extérieur, voilà, c'est ce qu'on entend, conflit ethnique, Dogon contre Peul. Vous vous dites attention, non, c'est pas ça.
Hein. Effectivement. Mali, je connais bien Mali. Je suis malien. Les Maliens n'ont jamais été divisés par l'ethnie. c'est clair et net.
On est plutôt mélangés d'ailleurs, même au Mali, au contraire.
Non, pas du tout. Pas du tout. Les Maliens, ils sont, même s'il y a un problème, c'est un problème de famille, on peut comprendre. Mais ce que je réponds à Idriss de Côte d'Ivoire, qu'il demande à Ibeka de donner de tous les éclairages de cette affaire. Et Idriss, vous êtes au courant que le problème du Mali, tous les chefs d'État africains, ils sont au courant, c'est pas un problème de Mali seulement. Le mercenaire a été envoyé par les grandes puissances pour faire de mal.
Koulibaly, je veux bien que vous me disiez que le problème du Mali, c'est le terrorisme et que les grandes puissances envoient des mercenaires. Vous savez, hein, Barkhane coûte un bras chaque année à la France. Hein, c'est un prix de se déployer. Je dis pas que la France est forcément au Mali pour des bonnes raisons, mais bon, voilà, faut se méfier aussi des théories du complot. Mais voilà, Koulibaly, en tout cas, disait attention, il y a pas de problème ethnique au Mali d'ailleurs. Il y a un très bon essayiste kényan qui a écrit un texte là-dessus pour dire que les guerres tribales, les guerres ethniques n'existent pas. Je vous mettrai la référence sur la page Facebook. Merci Koulibaly, on va revenir sur ces armées étrangères justement avec Monsieur Demba. Monsieur Demba, bonjour.
Alors bonjour Madame Ackman.
Bonjour Monsieur Demba, vous dites c'est facile d'accuser Ibeka, cependant il n'y a pas que l'armée malienne au Mali, on le disait, il y a la MINUSMA qui est plutôt une force de maintien de la paix et non pas une force d'intervention, et il y a surtout l'opération Barkhane déployée par la France.
Ce que moi je veux dire à mes frères maliens, toujours, moi je dis toujours qu'on se donne la main, parce que le problème c'est pas Ibeka. Le Mali est pris en otage par l'Occident. Et c'est un complot international contre le Mali. Et comme vous venez de dire, Monsieur Koulibaly vient de dire,
donc c'est l'Occident qui envoie des mercenaires au Mali pour.
Voilà, mais quand vous avez dit que la France, ça coûte cher à la France,
bah oui.
La France gagne là-bas, Madame Ackman, vous savez, non?
Non, oui, je sais, on entend sur tout ça, mais alors je veux dire, tous les experts qui sont dans le nord du Mali, personne n'a vu les mines exploitées par l'armée française, hein. Comme on peut lire ici et là sur des sites mal informés. Mais effectivement, on pose la question, Idrissa Diakité, hein, la présence des armées étrangères interroge, hein, du coup, face à ce regain de violence. Idrissa.
Mais en fait, Stéphanie, il y a beaucoup d'interrogations sur le rôle, bien sûr, la part de ces forces étrangères ici au Mali, notamment la MINUSMA, le G5 Sahel, mais aussi les forces françaises, parce qu'une partie de ces forces se trouve d'ailleurs déployée du côté du centre du Mali, donc on ne sent pas l'impact. Il s'agit de se mettre autour d'une table et de mettre à plat tout cela, discuter, comprendre qui doit faire quoi, si l'armée malienne ne peut pas, qui peut intervenir où, et faire vraiment trouver une solution définitive. Parce que aujourd'hui, mercredi encore, il y aura des manifestations à Padalabougou, en commune 5 du district de Bamako, pour que le G5 Sahel, entre guillemets, dégage de la commune 5.
On en a parlé d'ailleurs, effectivement, le QG du G5 Sahel qui doit s'installer à Bamako, c'est ça?
Voilà, qui est déjà installé presque, parce qu'ils ont fini. Et c'est au maître des officiers. Et au-delà de ces manifestations, il y a la société civile qui est en train de multiplier les déclarations, ainsi de suite. Le plus gros danger, c'est que quand l'État se tait, quand le gouvernement se tait, le gouvernement communique apparemment mal, parce que même cette histoire de chiffres et de victimes au centre du Mali, il y a deux jours, ça a mal communiqué. Donc, il y a beaucoup de choses.
Ça fait mauvais genre, comme on dit.
Ce n'est pas du ressort seulement de l'IDK. Ce n'est pas du ressort de l'IDK seul. C'est du ressort de tous les Maliens. Parce que, quelle que soit la façon dont Ibeka a été élu, quelle que soit la situation que nous vivons, c'est qu'il est le président de tous les Maliens. Donc, à partir de là, il va falloir mettre les points sur les i, trouver la table de discussion et d'échange pour éventuellement sortir de cette situation, parce qu'il n'a fait que trop durer. Nulle part au Mali, on ne sait pas aujourd'hui en ce sens.
Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé depuis le début de l'émission, Idrissa Diakité, c'est le nom d'Amadou Koufa, hein, l'un des leaders djihadistes qui sévit dans le pays. Est-ce que lui et les groupes armés terroristes sont-ils finalement en train de monter les communautés les unes contre les autres et de tendre un piège à ces communautés?
En fait, moi je vois que la façon dont les choses se sont passées, et au niveau du centre, cette dernière action criminelle, ça ne semble pas être le mode opératoire, en réalité, des djihadistes ou bien même des islamistes. C'est pas du tout. Parce qu'ils s'attaquent beaucoup plus aux intérêts aux intérêts du gouvernement et des Occidentaux. Mais là, enflammer, brûler, tuer et bien sûr massacrer une population, quel que soit le nombre qu'on veut vraiment nous ramener, je pense que parce qu'Amadou Koufa, chaque fois qu'il y a un acte posé de leur côté, il y a une revendication.
D'accord.
Et jusque-là, il n'y a pas de revendication de ce côté. C'est ça. Et puis, en fait, les Dogons ont été accusés quand il y a eu un massacre du côté des Peuls. Mais il va falloir rééquilibrer la balance pour trouver un argument et dire que les Peuls ont pris leur revanche. Moi, je suis Peul, Stéphanie. Mais mes meilleurs amis sont Bobo et Dogon. Je connais bien ces deux peuples-là. Chaque Peul a son Dogon au centre du Mali et chaque Dogon a son Peul. Et on n'a jamais eu de problème dans ce sens. Ce qui fait qu'on doit chercher là où se trouve, bien sûr, l'épicentre du cancer que le Mali est en train de vivre.
Et aux accusations de complot de l'Occident que soulignaient certains auditeurs, vous en pensez quoi ?
Ben, je pense réellement que nous avons notre destin en main, je l'ai tout le temps dit. Et si l'Occident est là, si l'ONU est là, si les Nations Unies, la MINUSMA et le G5 sont là, c'est parce que nous avons été nous-mêmes incapables d'affronter le problème que nous avons eu et que nous continuons d'avoir. Et ils viennent avec des statistiques, des normes et des données et d'une économie. Et cette économie qui est investie dans l'intervention et dans l'accompagnement du Mali, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on paye. Si on n'est pas encore de le payer déjà.
Bien sûr. Merci Idrissa. Il nous reste 3 minutes, le temps de lire le message de William qui dit en fait le problème de la sécurité au Mali et toutes ces attaques, c'est tout simplement la faiblesse de l'autorité de l'État. Ibeka, jusque-là, il n'a aucune solution pour contrer ces bandits qui massacrent la population gratuitement. Il est temps qu'il trouve des solutions. On va écouter Camara. Camara, bonjour.
Oh là là. Bonjour Madame Stéphane Atman.
Bonjour Monsieur Camara.
Ouais, vraiment... Je m'excuse, c'est-à-dire, au Mali, les gens, ils aiment trop tourner autour de la vérité, quoi. Tu sais que la parole est plus vieille que celui qui le dit. Vraiment, je lui rends grand hommage à M. Sanogo qui est en prison. Il avait dit que...
Amadou Aya Sanogo qui est en résidence surveillée.
Ouais, Amadou Aya Sanogo, il avait dit que personne d'autre ne pouvait venir faire cette guerre à la place du Mali. Hein. Et donc, il va arriver un moment, ce sont les militaires qui doivent prendre leurs responsabilités en main. Parce que ces jeux-là, je me rappelle quand le cas de Ogosago s'est passé, le président il est allé avec le chef d'état-major en disant dans notre dialecte « j'ai plus envie de revenir ici ». Mais je sais qu'il va repartir. Sinon, à sa place, d'un vrai fils de Mandé, il doit y renoncer normalement. Parce que souvent, quand ta propre salive, là, c'est-à-dire ça te fait éternuer, normalement tu as droit à mourir. Mais quand le cas n'est pas comme ça et que les choses se répètent, parce que c'est vrai, il n'y a pas de fumée, sans fumée. Mais continuer à accuser d'autres personnes de tort à travers, alors que nous avons des problèmes sur nos pieds, c'est autre chose. Ouais, non. Au début,
c'est l'histoire du doigt et de la lune, mon cher Camara.
Oui, c'est ça. Donc du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc moi, vraiment, j'interpelle les militaires du Mali, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités en main. Parce que ceux qui sont en train de mourir, soit c'est le frère de quelqu'un, soit c'est la sœur de quelqu'un, soit c'est le mari de quelqu'un. Ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. C'est-à-dire qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Nous avons encore le temps, c'est-à-dire de la loi dictée par les Occidentaux, que ce soit démocratie, je ne sais pas comment ils appellent, mais ils avaient dit ça avant. Parce que tout, moi je parle des faits qui ont été dits. Celui, le président qu'on a enlevé depuis longtemps, qu'on voulait la démocratie, il avait dit qu'affaire de
musulmans,
là, ça va. Voilà, Moussa Traoré, il avait dit concernant le nommé Haïdara que c'est un gars, il va créer des soucis au Mali. Effectivement, c'est en train d'arriver. Je parle, je suis en train de dire, si je mens, les Maliens, ils m'écoutent. Mais, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se voit la face. Quand quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, il ne peut pas. Non. Mais seulement, ce sont les innocents qui meurent. Moi, vraiment, si les jihadistes, ils m'écoutent là. C'est-à-dire, des grâces, s'ils veulent tuer, ils n'ont qu'à les tuer des responsables, mais pas des innocents.
Merci, Camara. On arrive à la fin de cette émission. Idrissa Diakité, j'ai juste le temps de vous remercier, de vous souhaiter une excellente journée à Bamako. Merci à vous Idrissa, merci de vos éclairages sur cette situation au Mali. On aura sûrement l'occasion d'y revenir vendredi dans la libre antenne d'ailleurs. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro c'est le 33 1 55 07 58 00. Je donne l'indicatif, mais vous pouvez appeler depuis la France en composant bien sûr le 33 1 55 07 58 00. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa Radio, la seule radio africaine. À demain.